Troisième partie. De sang et de fureur. Chapitre 16. La piste du tueur. Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles. Donna Tartt. Les kilomètres défilaient. Perdu dans ses pensées, grillant cigarette sur cigarette, Gabriel conduisait, les yeux rivés à la route. Un panneau de signalisation indiqua « Prochaine sortie Hartford ». Puis immédiatement un autre « Boston, 105 miles ». À cette allure, il serait dans les bureaux du FBI dans moins de 2 heures. Le front collé à la vitre, Alice tentait de remettre de l'ordre dans ses idées. À la lumière des dernières révélations, elle classait les informations, regroupant les éléments et les données dans des sortes de dossiers imaginaires qu'elle rangeait ensuite dans les différents compartiments de son cerveau. Une chose la chiffonnait, les paroles de Seymour à propos des caméras de surveillance du parking.
« Elles ont filmé ta plaque d'immatriculation, mais l'habitacle de la voiture est plongé dans la pénombre. »
Elle mourait d'envie de voir ces images elle-même. Toujours ce besoin de tout contrôler, de vérifier tous les détails. Mais comment faire? Rappeler Seymour? Inutile. Il l'avait bien prévenu.
J'ai fait un saut à Franklin Roosevelt et j'ai pu visionner leur bande, mais on ne voit pas grand-chose.
Seymour avait regardé le film, mais ne l'avait pas en sa possession. Logique. En l'absence de commission rogatoire, il n'avait pas pu le faire saisir. Il s'était rendu au parking et avait dû négocier âprement avec le type de la sécurité pour le visionner sur place. Mentalement, elle fit défiler son réseau de relations. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro de portable du commissaire Maréchal, qui dirigeait la sous-direction régionale de la police des transports.
« Salut Franck, c'est Schaeffer. »«
Alice, tu es où là? C'est un numéro à rallonge qui s'est affiché. » »«
À New York. »«
La crime t'a payé le voyage ?»
Une longue histoire, je t'expliquerai.
Ouais, j'ai compris. Toujours à enquêter en franc-tireur. Tu ne changeras jamais.
Non, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'appelle.
Alice, il est 10 heures du soir. Je suis à la maison, là. Qu'est-ce que tu veux?
Les images d'une caméra de surveillance. Parking Vinci de l'avenue Franklin Roosevelt. Je recherche tout ce que tu pourrais trouver sur une Audi TT gris nacré.
Hey, je t'arrête tout de suite, c'est un parking privé.
Il reprit après un silence.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ce que tu sais très bien faire. Tu connais des mecs chez Vinci Park. Tu négocies, tu menaces, tu cajoles. Tu as de quoi noter le numéro de la plaque?
Je ne suis pas...
Tu te souviens lorsque j'ai serré ton gamin quand je travaillais au stup? T'étais bien content que je lui évite la tôle, n'est-ce pas? Tu veux que je te rappelle combien de cams il avait sur lui?
Putain, ça fait presque 10 ans, Schaeffer. Je ne vais pas t'être redevable à vie.
Je crois que si, en fait. On en prend pour perpète. C'est la règle quand on a des enfants, non? Bon, tu le notes, ce numéro de plaque?
Maréchal soupira en signe de résignation.
Dès que tu as les images, tu me les balances sur mon mail perso, ok? Et ne traîne pas, j'en ai besoin dès ce soir.
Satisfaite, Alice raccrocha, puis, devant le regard interrogateur de Gabriel, résuma la teneur de sa conversation. L'agent du FBI voulut s'allumer une nouvelle cigarette, mais son paquet était vide.
Toujours aucune nouvelle de votre père?
Alice secoua la tête. Gabriel insista.
C'est lui qui détient la première clé du mystère, pourtant. S'il vous a dit la vérité et qu'il a vraiment tué Vaughn, alors on se trompe d'assassin.
Vous croyez que je ne le sais pas?
Gabriel froissa le paquet de clopes dans le cendrier.
Je ne comprends pas quel aurait été son intérêt à vous mentir.
Alice haussa les épaules.
Peut-être a-t-il voulu m'aider à tourner la page après mon accident?
Il eut une moue dubitative.
De là à inventer toute cette histoire?
On voit bien que vous ne connaissez pas mon père.
Non, effectivement.
Elle regarda à travers la vitre les glissières de l'autoroute qui défilaient à une vitesse stupéfiante, créant un corridor d'acier et de béton.
Il a les défauts de ses qualités, expliqua-t-elle. Comme il me connaît bien, il se doutait que j'aurais été prête à tout pour me venger et tuer Vaughn de mes propres mains. Il n'est pas impossible qu'il ait cherché à m'éviter de faire une connerie.
Tout de même, vous ne voulez pas essayer de le rappeler?
Ça ne sert à rien. S'il avait eu mon message, il m'aurait contacté.
Allez, un dernier coup de fil et je vous laisse tranquille,
tenta-t-il avec un sourire. Résignée, Alice brancha son appareil sur haut-parleur et recomposa le numéro.
Alain Schaeffer, pas dispo pour l'instant. Laissez message après bip.
C'est étrange qu'il ne vous rappelle pas, non ?
Mon père n'est pas le genre de mec à scruter l'écran de son portable toutes les 5 minutes. En plus, depuis qu'il est à la retraite, il s'est pris de passion pour la spéléologie. À l'heure qu'il est, il se trouve peut-être avec ses potes du club des anciens de la PJ dans un gouffre, en Isère ou dans les Pyrénées.
On n'a pas de bol, marmonna Gabriel.
Alice venait à peine de raccrocher lorsque la sonnerie du portable retentit dans l'habitacle. Elle décrocha dans la foulée et demanda en français. « Papa ?»«
Well, I'm afraid not. I'm Thomas Craig. Gabriel gave me your number. May I ?»
Elle mit le haut-parleur et tendit son téléphone à Kane. Surpris, Gabriel s'empara du combiné.
« Thomas ?»«
Salut Gab. Eliane Pelletier m'a transmis les résultats de l'analyse ADN du sang trouvé sur le chemisier. J'ai rentré les données dans la base CODIS et devine quoi ? On a un vainqueur. »
Les deux flics échangèrent un regard. Ils sentirent tous les deux leur cœur accéléré dans leur poitrine. Alice désigna à Gabriel un panneau autoroutier.
« Thomas, il y a une aire d'autoroute dans 2 kilomètres. On se gare et je te rappelle. »
Le Grill 91 était un long bâtiment rectangulaire un peu vieillot, au volume imposant et d'une hauteur sous plafond spectaculaire, comme on en trouvait dans les années 1970. Même si ses baies vitrées ne donnaient pas sur le Pacifique, mais sur le parking d'une aire de repos de l'Interstate 91, sa forme géométrique et sa transparence rappelaient davantage les grandes villas californiennes que les bicoques aux toits à 2 versants de Nouvelle-Angleterre. Ornée du slogan « Miles away from ordinary », l'horloge murale aux couleurs d'une célèbre bière mexicaine indiquait 16h12. Un joli soleil d'automne se déversait sur une salle quasiment vide. Derrière le comptoir, une serveuse rêvassait en écoutant le saxophone de Stan Getz. Alice et Gabriel s'étaient installés à une table, au fond de la salle, le plus loin possible de la caisse et de la buvette. Ils avaient posé le téléphone portable au milieu de la table, en mode haut-parleur, et écoutaient religieusement la voix grave et cuivrée de Thomas Craig en train de leur brosser un étrange portrait.
« Le sang présent sur le chemisier appartient à un certain Caleb Dunn, 41 ans, fiché au CODIS pour délit mineur, arrêté il y a 8 ans en Californie pour trafic de stupéfiants et rébellion contre les forces de l'ordre. Il a fait 6 mois de prison à Salinas Valley, puis il s'est rangé, a déménagé sur la côte Est où il a trouvé un emploi. Il s'est tenu tranquille jusqu'à présent. »
Alice prenait des notes à la volée sur un apron en papier. Gabriel demanda « C'est quoi son job ?»
Veilleur de nuit dans une maison de retraite à Concord, dans le New Hampshire.
Ils engagent des repris de justice maintenant dans les maisons de retraite ?
S'étonna Gabriel.
Tout le monde a droit à une nouvelle chance, non ?
Alice triturait le capuchon du stylo publicitaire que lui avait prêté la serveuse.
Vous avez l'adresse de son domicile ?
Oui,
répondit Craig.
Une baraque à Lincoln, au milieu des White Mountains. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Gab ?
Pas grand-chose pour l'instant. « Creuse le truc de ton côté, on en parle tout à l'heure. On sera à Boston dans 2 heures. »«
Il faudra m'en apprendre plus en tout cas. Le patron te croit toujours en Irlande. »«
Ne lui dis rien pour l'instant, je m'expliquerai avec lui tout à l'heure. Au fait, tu as une photo de Dunn ?»«
Je te l'envoie par mail.
Ah, »« Impossible, le téléphone date de la préhistoire. »
Gabriel jeta un coup d'œil au set de table sur lequel figuraient les coordonnées du restaurant.
« Balance-la-moi par fax. »«
Par fax ? Le truc qu'on utilisait avant Internet ?»
C'est ça, fous-toi de moi. Je suis au Grill 91, un routier de la 91 au niveau de Hartford. Je te donne leur numéro. Envoie la photo et ajoute l'adresse de la maison de retraite ainsi que celle de la piole de Dunn.
Gabriel dicta les coordonnées et raccrocha. Les deux flics se regardèrent en silence. Leur enquête n'allait nulle part. Trop de pistes. Trop d'interrogations. Trop peu de fils pour relier des éléments sans rapport évident. Gabriel rompit le silence.
On n'est pas plus avancé, bon Dieu. Qu'est-ce que le sang de ce veilleur de nuit foutait sur votre chemisier ?
Vous pensez que je lui ai tiré dessus ?
Ce n'est pas à exclure. Vous m'avez dit vous-même qu'il manquait une balle dans le chargeur du Glock.
Alice lui jeta un regard noir.
Ah oui, et pour quel motif ? Hein ? C'est la première fois que j'entends parler de ce type.
Il leva ses 2 mains pour calmer le jeu.
Ok, vous avez raison, je n'en sais rien.
Il fit craquer ses doigts avant de décider.
« Je vais acheter des clopes. Il y a une sorte de supérette dans la station-service. Je vous prends quelque chose ?»
Elle secoua la tête et le regarda s'éloigner. De nouveau, Alice ressentit une brûlure lui enflammer le creux de l'estomac et remonter dans l'ésophage. Elle se leva et marcha jusqu'au comptoir pour prévenir la serveuse qu'un fax allait arriver à leur intention.
« Vous vous sentez bien, madame ?»«
Oui, oui, quelques brûlures gastriques, ça va passer. »«
Oh, ma mère en souffre aussi. Vous voulez que je vous prépare un smoothie à la papaye ? C'est très efficace. »
C'était une petite Barbie blonde avec un léger cheveu sur la langue. Son costume de cheerleader lui donnait l'air de sortir du film Grease ou d'un épisode de Glee.
« D'accord pour le jus de papaye. Merci beaucoup, » dit-elle en s'installant sur un tabouret.
« Vous n'auriez pas une carte de la région par hasard ?»«
Des clients en oublient parfois sur les tables. Je vais voir si j'en trouve une dans le bureau. » »«
C'est très aimable à vous. » Moins de 2 minutes plus tard, Barbie était de retour avec une carte de la Nouvelle-Angleterre. Alice la déplia sur le comptoir. C'était une bonne vieille Michelin d'avant le GPS, d'avant l'addiction au smartphone et à Internet, d'avant cette époque de fou où les hommes avaient abdiqué pour devenir esclaves de la technologie.
« Je peux écrire dessus ?»« Oui, elle est à vous, cadeau de la maison. Et voici votre smoothie. »
Alice la remercia d'un sourire. Elle aimait cette fille. Gentille, simple, attachante. Quel âge avait-elle ? 18 ans ? 19 ans tout au plus ? Alice avait 38 ans. 20 ans de plus qu'elle. La sentence tomba, imparable. Elle aurait pu être sa mère. Une constatation qui revenait de plus en plus souvent ces derniers temps lorsqu'elle croisait de jeunes adultes. Elle se trouvait dans un no man's land étrange. Cette impression d'avoir toujours 20 ans dans sa tête et d'entraîner le double dans son corps. Saleté de temps qui passe. Le seul maître de ceux qui n'ont pas de maître, comme dit un proverbe arabe. Elle chassa ses pensées et se concentra sur la carte. Pour se repérer, elle avait toujours eu besoin de visualiser les choses. À l'aide de son stylo, elle entoura différents endroits. New York, d'abord, qu'ils avaient quitté 2 heures auparavant. Et Boston, où se trouvait l'antenne du FBI. Actuellement, ils étaient arrêtés à Hartford, exactement à mi-chemin entre les deux villes. Nouveau coup de crayon. Craig leur avait dit que Don travaillait dans une maison de retraite à Concord. C'était beaucoup plus au nord, dans le New Hampshire, à au moins 250 km. Craig avait également précisé que Don habitait à Lincoln. Elle mit presque 1 minute à repérer l'endroit sur la carte. Un bled coincé entre 2 massifs montagneux.
« Tu connais ?» demanda-t-elle à sa nouvelle copine. « Ouais, il y a une station de ski à côté, Loon Mountain. Avec mon copain, on y est déjà allé. »«
C'est comment ?»«
Plutôt sinistre, surtout en hiver. Et ce n'est pas la porte à côté. »
La flic hocha la tête. Il faisait tellement chaud dans la salle qu'elle retira son pull à col roulé pour rester en t-shirt. Un paquet de cigarettes à la main, Gabrielle rentra dans le restaurant et rejoignit Alice sur un tabouret.
« Je vous sers quelque chose, monsieur ?
Vous n'avez pas d'expresso ?
Non, désolé.
Un Perrier, peut-être ?
Non plus. »
Alice s'agaça.
« Faites un effort, Kane !»«
Ok, mettez-moi un regular coffee. »
Pendant que la jeune serveuse lui préparait son café, Gabrielle la détailla des pieds à la tête, s'attardant sans vergogne sur la partie la plus charnue de son anatomie.
« Ne vous gênez pas, surtout !» s'exaspéra Alice.
Il leva les yeux au ciel. Elle continua.
« Vous êtes vraiment un mec comme les autres !» soupira-t-elle.
« Je n'ai jamais prétendu le contraire !»
fit-il en sortant une cigarette de son paquet et en se la coinçant derrière l'oreille. Alice avait préparé sa réplique, mais elle n'eut pas l'occasion de la lui servir.
« Je crois que votre fax vient d'arriver !»
lança Barbie, avant de s'éclipser quelques secondes dans le bureau. Lorsqu'elle revint auprès d'eux, elle tenait 2 pages imprimées qu'elle avait pris le soin d'agrafer. Les deux flics découvrirent ensemble la photo d'identité judiciaire de Caleb Dunn.
« Entre ça et rien !» lâcha Alice déçue.
De fait, le cliché anthropométrique, en noir et blanc, au grain épais, ne donnait pas grand-chose. Dunn y apparaissait comme un homme commun, brun, de taille moyenne, un visage sans trait distinctif et une allure passe-partout. Monsieur Tout-le-Monde.
John Doe.
C'est vrai qu'on n'y voit que dalle,
admit Gabrielle.
Ça pourrait être n'importe qui.
Le flic surmonta sa déception. Il tourna la page et découvrit les adresses que Thomas Craig avait ajoutées à la main. Celle de la maison de retraite et celle de la bicoque de Dunn.
Ça ne vous semble pas étrange, cette histoire de maison de retraite qui emploie un repris de justice comme gardien ?
Alice ne répondit pas. ses yeux restaient scotchés à la photo, essayant de pénétrer le mystère d'Ann. Gabriel prit une gorgée de son café et réprima une grimace de dégoût.
« Vous me passez votre téléphone ? Il faut que je vérifie quelque chose. »
Il composa le numéro des renseignements pour être mis en relation avec le St. Joseph Center, la maison de retraite dans laquelle officiait Dunn. Il déclina son identité à l'hôtesse d'accueil.
« Agent spécial Kane, FBI. »
Et demanda à parler au directeur de l'établissement. Comme ils en avaient à présent l'habitude, Gabriel bascula sur haut-parleur pour faire profiter Alice de la conversation.
Julius Mason, c'est moi qui ai l'honneur de diriger cet établissement. Que puis-je pour vous ?
Gabriel prétexta une enquête de routine pour demander des informations sur Dunn.
J'espère qu'il n'est rien arrivé à Caleb,
s'inquiéta Mason.
A-t-il assuré son service hier soir ?
Le directeur manqua de s'étrangler.
Mais enfin, Caleb Dunn ne travaille plus chez nous depuis presque 2 ans.
Vraiment ? Je n'étais pas au courant.
Gabriel peinait à garder une contenance. Alice ne put s'empêcher de sourire. Même le FBI n'était pas capable de tenir ses fiches à jour. La lenteur et les complexités administratives n'étaient pas réservées à la France. Vexé, Gabriel reprit d'un ton ferme son interrogatoire.
« Saviez-vous que Dunn avait un casier lorsque vous l'avez engagé ?»«
Un casier, allons. Il a vendu quelques barrettes de shit et dit ses 4 vérités à la brutite flic qu'il a arrêtée. La belle affaire. Tout ça ne méritait pas la prison. »«
C'est votre avis ?»
Oui, et je le partage.
Nouveau sourire d'Alice. Le type n'était pas commode à interroger.
Lorsqu'il travaillait pour vous, Dunn n'a jamais eu un comportement étrange ou inapproprié ? Rien ne vous a semblé bizarre ?
Non, au contraire. Caleb était quelqu'un de très sérieux, de très serviable. Notre personnel et nos pensionnaires ne tarissaient pas d'éloges sur lui.
Dans ce cas, pourquoi vous en êtes-vous séparés ?
Mason soupira.
Le conseil d'administration a souhaité réduire les coûts de fonctionnement. Pour grappiller quelques dollars d'économie, nous faisons désormais appel à une société de gardiennage externe. C'est moins cher, mais beaucoup plus impersonnel.
Vous savez s'il a retrouvé du travail ?
Bien sûr, et très rapidement d'ailleurs. C'est moi-même qui l'ai recommandé à un hôpital du Maine qui cherchait un gardien de nuit sérieux.
Vous avez le nom de cet hôpital ?
Pour que vous puissiez mettre à jour vos foutues fiches et continuer à enquiquiner les honnêtes citoyens ?
Monsieur Mason, s'il vous plaît.
Il s'agit du Sebago Cottage Hospital, dans le comté de Cumberland.
Les deux flics échangèrent un regard stupéfait. La même tension parcourut leur corps. Le Sebago Cottage Hospital était l'établissement dans lequel travaillait Elizabeth Hardy, l'infirmière retrouvée assassinée chez elle 10 jours plus tôt. Flic des pieds à la tête. Flic jusqu'au bout des ongles. Flic jusqu'au plus profond de leur être. Ils n'avaient pas eu à discuter longtemps pour tomber d'accord. Ils n'allaient pas perdre de temps à Boston. Ils allaient la jouer à 2 en franc-tireur, rouler vers le nord jusqu'à Lincoln et interroger eux-mêmes ce Caleb Dunn.
« Je suis passé à côté de ce type dans mon enquête », reconnut Gabriel. « Elizabeth Hardy a été tuée chez elle, dans sa maison près d'Augusta. Elle avait désactivé le système d'alarme, ce qui nous a conduit à penser qu'elle connaissait son agresseur. J'ai interrogé beaucoup de personnes dans son environnement direct. Ses amis... ses collègues de travail. Je me suis rendu moi-même au Sebago Cottage, mais le nom de ce gars n'est jamais apparu sur mes tablettes. Ce n'était pas un proche de Hardy, j'en suis certain.
En combien de temps peut-on être chez lui ? Il regarda attentivement le plan, reconstituant avec son doigt le trajet jusqu'à Lincoln.
Je dirais 4 heures, un peu moins en ne respectant pas les limitations de vitesse.
Tant que ça ?
Jusqu'à Bradford, on peut rester sur l'autoroute, mais ensuite on sera obligé de s'enfoncer dans les montagnes. La bagnole roule bien, mais elle n'est pas de toute première jeunesse. Il y a ce voyant d'huile qui m'inquiète, et j'ai jeté un œil à la roue de secours. Elle est à plat. Avant de se lancer, il faudrait qu'on fasse une halte chez un garagiste.
Barbie, qui n'avait pas perdu une miette de leur conversation, s'écria
« Mon cousin est garagiste. Je peux l'appeler si vous voulez. »
Gabriel leva un sourcil. « Où peut-on le trouver ?»«
À Greenfield, »
renseigna-t-elle en pointant la petite ville sur la carte. Il regarda le plan, c'était à moins 1 heure de route.
Il saura s'occuper d'une vieille Mustang ?
Le plus simple, c'est de voir ça avec lui, intervint Alice. Appelez-le.
Le flic acquiesça et Barbie se précipita sur son téléphone. Alors qu'Alice lui décochait un clin d'œil complice, un nouveau jet brûlant fusa dans son ésophage. D'une violence peu commune. Comme si de l'acide était en train de lui ronger la muqueuse de l'estomac. Lorsqu'elle sentit l'irruption d'un goût métallique dans sa bouche, elle descendit de son tabouret et migra vers les toilettes.
Mon royaume pour deux comprimés d'inexium.
Secouée par un haut-le-cœur, Alice s'était penchée au-dessus de la cuvette. L'ésophage en feu, elle se frictionna au niveau de l'estomac sans parvenir à calmer la brûlure. Pourquoi la douleur était-elle si aiguë? Le stress? L'excitation de l'enquête? La fatigue? Elle continua son massage pendant une bonne minute, puis se releva et se lava les mains dans le lavabo. Elle évita son reflet dans le miroir. Pas envie de croiser ses yeux cernés ni ses traits creusés par l'épuisement. Elle se passa de l'eau glacée sur le visage et ferma un instant les paupières. Pourquoi s'était-elle réveillée ce matin avec son chemisier taché du sang de ce Caleb Dunn? Et qui était vraiment cet homme? Un disciple de Vaughn, qui aurait utilisé le même mode opératoire pour assassiner cette infirmière?
Vaughn lui-même?
Non, elle refusait pour l'instant d'envisager cette éventualité. Son père avait tous les défauts du monde, mais elle ne voulait pas croire qu'il ait pu monter ce mensonge de toutes pièces. Trop tordu, trop dangereux, trop risqué. En France, depuis 2 ans, les meilleurs flics avaient traqué Vaughn sans relâche et sans succès. C'est bien la preuve que le tueur en série est mort, essaya-t-elle de se persuader. Comme Seymour allait bientôt le confirmer, son cadavre croupissait au fond du puits d'un bâtiment sinistre et désaffecté dans un trou perdu de l'est de la France. De l'eau avait dégouliné jusque sur sa poitrine. Elle attrapa 2 serviettes en papier dans le distributeur et s'essuya le cou et la naissance des seins. Elle ressentit une gêne et baissa les yeux. Et c'est alors qu'elle l'aperçut. Un corps étranger, implanté sous sa peau, 4 ou 5 centimètres au-dessous de sa clavicule. Alice appuya sur la chair plus franchement pour faire ressortir l'objet. C'était un implant de la forme d'une grosse carte SIM. Un rectangle 1 ou 2 centimètres carrés, dont les bords arrondis apparaissaient nettement lorsqu'elle tendait son épiderme. Son cœur se retourna et pulsa dans ses tempes.
« Putain, qui m'a mis ce truc sous la peau ?»
s'alarma-t-elle. Instinctivement, elle chercha les traces d'une opération récente. Devant le miroir, elle retira son t-shirt, ausculta et palpa chaque parcelle de son corps. Sa poitrine, son thorax, ses aisselles. Aucune trace d'une incision récente. Pas la moindre cicatrice. Une poussée de sueur lui tapissa le front. Parmi les questions qui bombardaient son esprit, 2 interrogations émergeaient. Depuis quand portait-elle ce truc? Et surtout, quels étaient ses effets?